C'est votre nature sur France Bleu Cotentin. Emmanuel Gouache.
Retour de l'info tout à l'heure à midi en ce qui vous concerne.
Bon appétit.
Et puis à 10h pour le flash de 2 minutes qu'on aura tout à l'heure après. C'est votre nature. C'est votre nature. C'est avec Emmanuel Fauché du CAIE de la Manche, le conseil en architecture et urbanisme.
Et environnement.
Et environnement. Ouais. Heureusement que vous étiez là pour le E parce que j'avais oublié.
Compliqué le matin, CAIE.
C'est ça.
Conseil en architecture, urbanisme, environnement. Oui.
Ouais. Vous avez écouté avec attention les infos de Damien Mestre. Hein, j'ai vu ça. Forcément, le grand magasin Ratier à Cherbourg, ça vous parle.
Oui, c'est des architectures de grande qualité. Et c'est vrai que dans nos territoires, parfois, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut les réinvestir ou pas. Il y a des territoires qui choisissent parfois de s'affranchir en fait, de ces mémoires-là.
C'est-à-dire de les supprimer.
De les effacer, puis pouvoir mettre en place d'autres types de programmes immobiliers. Et on est toujours très heureux de constater, de voir, de découvrir, d'apprendre que des bâtiments emblématiques comme ceux-là sont conservés par des territoires entiers, protégés jusqu'à trouver des acteurs qui sont capables en fait de les réhabiter, de les refaire fonctionner et d'y installer donc à la fois des cases commerciales, à la fois des espaces de logement et faire en sorte que les gens qui viennent à nouveau les faire vivre découvrent toute l'intelligence qui a été mise au moment où ils ont été conçus parce que ces bâtiments-là utilisent la lumière, utilisent les grands volumes, utilisent le lien avec la ville et puis sont un phare, enfin sont des éléments importants dans nos territoires urbains et le fait de les voir passer le cap, donc de les voir arriver au 21e siècle et puis se lancer dans une nouvelle aventure et une nouvelle vie, c'est absolument épatant. Et sur des éléments comme ceux dont on va parler ce matin, qui est la question de l'humidité dans les bâtiments, on se dit que sur ces solutions qui sont mises en œuvre, ce bâtiment-là, on va traiter aussi tous ces sujets-là et donc faire en sorte que donc des bâtiments anciens qui sont plutôt parfois construits avec on est au début de l'usage des bétons, des matériaux nouveaux, des parois de verre, des menuiseries et des ouvertures qui ont des dimensions spécifiques un peu plus grandes que celles qui étaient faites auparavant.
Ouais.
Ben là, on va les remettre en scène aujourd'hui et faire en sorte que ce bâtiment devienne un bâtiment contemporain, ce qu'il aura toujours été finalement.
Bon, il est formidable, Emmanuel Fauché, il est avec nous jusqu'à 10h.
Jusqu'à 10h, c'est votre nature sur France Bleu Cotentin.
Et donc, on le disait, on va parler d'humidité dans les bâtiments. Et justement, on se dit toujours, quand on pense à ces vieux bâtiments, on se dit que c'est peut-être là où il y a des problèmes d'humidité. C'est pas forcément le cas.
C'est pas forcément le cas. Le bâti ancien, en fait, est un bâti qui a toujours fonctionné avec son environnement. Si on pense aux bâtiments en masse, en bauge, en terre, du parc des Marais, vous recevez régulièrement les acteurs du parc sur votre antenne, c'est des bâtiments qui ont été construits. On a prélevé simplement dans le sol la terre et le matériau qui a servi à les construire. Et ces matériaux là sont perspirants, ils ont une vraie porosité, ils ont une vraie réalité dans le lien qu'ils ont avec leur environnement. C'est-à-dire quand l'air est trop sec, il participe à le réhumidifier, quand l'air est trop humide, il participe à absorber l'humidité, et donc il fabrique une espèce d'optimisation de la qualité de l'air vécu, puisque notre inconfort, nous humains, se passe dans des airs qui sont pas tenus. Globalement, un taux d'humidité acceptable dans une maison, vous m'aviez posé la question, je crois, Emmanuel, lors d'une précédente émission, c'est entre 40% et 65% d'humidité. Sous 40%, l'air est trop sec, on le sent très bien, la gorge nous gratte, on tousse, et au-dessus de 65-70%, il est trop humide, et on est dans un inconfort. Et les bâtis anciens, en fait, à la particularité de pouvoir interagir avec ces éléments-là. Et c'est vrai que quand on a importé et apporté des solutions modernes sur ce bâti ancien, donc on a parfois enduit un mur intérieur en ciment ou un mur extérieur en ciment, et ben on a mis en œuvre des éléments qui ont complètement bousculé et qui ont complètement déséquilibré l'équilibre de ce bâti-là. Mmh. Et donc aujourd'hui, on essaie de s'inspirer de la qualité du bâti ancien pour trouver aussi des solutions sur le bâti, sur les bâtiments récents qui sont construits en aglo avec des éléments industrialisés et qui pour le coup n'ont pas du tout la même interaction et le même fonctionnement avec leur environnement. Et donc toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la qualité de l'air soit tenue dans un bâtiment et éviter d'avoir des désordres, des désagréments qui sont de l'ordre de moisissures, d'inconfort et autres, et dont on va sans doute parler.
Oui, on va en parler effectivement ce matin puisqu'on parle de l'humidité dans nos bâtiments. Vous nous appelez au 02 33 23 13 23, vous n'hésitez pas à le faire si vous rencontrez des soucis souci d'humidité dans votre habitat, Emmanuel Fauché est là pour vous renseigner, vous répondre, et il aura peut-être la solution à votre problème. L'humidité dans la maison, c'est notre thématique dans C'est votre nature aujourd'hui avec Emmanuel Fauché du CAE de la Manche. Tous les matins, lorsque vous vous réveillez, de l'eau perle sur les vitres de vos fenêtres, et après la douche, j'en parle même pas, il y a même un mur qui reste constamment humide dans votre maison. En bas des murs, vous constatez des traces foncées de remontée d'humidité, et le carrelage du rez-de-chaussée n'est jamais vraiment sec. Comment remédier à ces désagréments? Existe-t-il des solutions? Lesquelles? Une nouvelle fois, est-ce que la maison est bien en lien avec son environnement? Et si on intégrait la nature dans tout ça? Aujourd'hui, on vous dit tout, ou presque, dans C'est votre nature. Et comme toujours, le fil rouge, si vous avez un problème avec votre permis de construire ou votre déclaration préalable, vous n'hésitez pas à appeler France Bleu Cotentin au 02 33 23 13 23. Et on dit merci à ce petit texte à Emmanuel Fauché du CAUE.
Appelez-nous, c'est votre nature sur France Bleu Cotentin. 02 33 23 13 23.
Avec Emmanuel Fauché du CAUE de la Manche, on parle d'humidité dans la maison aujourd'hui et de la relation donc qu'on peut avoir, que peut avoir un habitat avec son environnement, avec la nature en proximité même, et ses soucis d'humidité. On a posé pas mal de questions dans le petit texte tout à l'heure, notamment avec les différentes remontées d'humidité, etc. Et comment est-ce que on peut remédier à ces désagréments? C'est vrai que c'est une vraie bagarre quand on commence à avoir de l'humidité dans une maison, c'est compliqué de se battre contre ça.
Ouais, c'est compliqué. En plus, on s'attaque aux conséquences, c'est-à-dire qu'on voit apparaître des moisissures, on voit apparaître de l'eau qui ruisselle, et donc on essaie d'injecter des produits, de bloquer finalement l'eau. Et on oublie que parfois, on a goudronné la grande cour d'accès de la maison. Et le fait de goudronner la grande cour d'accès de la maison fait que l'eau qui circulait à l'extérieur et qui infiltrait le sol, ne l'infiltre plus, et pour le coup rejoint des espaces qui lui permettent de s'évacuer, qui sont éventuellement le mur d'une maison ancienne. Et si ce mur-là, qui est un mur éventuellement d'une maison en terre, en bauge ou en masse, a été enduit en ciment à l'intérieur et à l'extérieur, l'eau ne peut toujours pas quitter le mur et ne peut toujours pas se déplacer dans l'atmosphère de la maison. Et donc elle va migrer à l'intérieur du mur et elle va naturellement chercher des endroits pour ressortir. Donc ça peut être au niveau du sol, en passant sous le carrelage, en remontant par endroits. Ça peut être au niveau de la salle de bain, parce que les sols sont en lien avec les évacuations des eaux usées. Ça peut être le fait de remonter jusqu'en dans les étages et du coup de mouiller les charpentes. Et donc vous voyez que l'eau,
ça détériore,
mais l'eau circule, l'eau voyage, l'eau se déplace, l'eau traverse une maison, l'eau traverse un champ. Pourquoi est-ce qu'on a des haies? Parce que ça nous permet de limiter en fait les surcharges en eau des parcelles de nos territoires et de nos paysages. Il se passe la même chose dans une maison. Et c'est vrai que les actions modernes qu'on a mis en œuvre, alors qu'on a mis en œuvre pour des bonnes raisons, parce qu'on voulait avoir un accès facilité en fait à un garage ou à un habitat, parce que on voulait mettre en place une terrasse au pied de la maison, parce que on souhaitait que le mur soit propre et donc on l'a enduit. Toutes ces solutions modernes qui ont été mises en place sur du bâti ancien qui lui-même avait déjà un équilibre, on modifie en fait cet équilibre, et puis l'on modifie dans le mauvais sens, et si bien que la maison ne retrouve plus sa stabilité. Et donc très simplement, il y a un certain nombre de gestes. Alors quand je dis très simplement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les auditeurs pourraient dire oulala,
il faut enlever le goudron de la cour, forcément
c'est pas si simple, et surtout si on l'a fait il y a 2 ans et demi, parce que on a pu le faire. Mais on peut imaginer des solutions temporaires, c'est-à-dire scier le goudron ou l'enrober à 40 ou 50 cm tout autour de la maison, et faire en sorte de retrouver un endroit où l'eau peut s'infiltrer dans la terre. On peut aussi, à l'intérieur de sa cour goudronnée, faire un grand carré de 3 mètres par 3, 9 mètres ou 10 mètres carrés, et y réinstaller des plantations, réinstaller pourquoi pas un petit potager. Enfin, avoir ces premiers gestes qui permettent de faire en sorte qu'une partie de l'eau qui sera captée par cet endroit, qui traditionnellement va chercher à migrer dans des lieux qui sont pas faits pour elle, retrouve son élément naturel. Et notre lien à la nature, il est celui-ci. Il est de faire en sorte que dans nos vies modernes, on puisse à nouveau la réintégrer et la respecter, y compris dans les endroits qui ont été très très urbanisés.
Oui, et puis tout est lié. Je me souviens d'une émission, on avait parlé de comment combattre la chaleur dans les habitats. On s'était dit à cette époque-là notamment, rien de mieux que d'avoir des arbres forcément pour faire de l'ombre et pour rafraîchir la maison. Et de la même façon, si on a un petit peu de verdure autour de soi, autour de la maison, peut-être on équilibre un peu les choses en termes d'humidité.
Exactement.
Aussi,
les arbres, je donnais juste un exemple, alors là, peut-être que beaucoup des auditeurs le savent, je prends un peuplier qui sont dans des éléments ponctuels dans nos paysages, parce que c'est des éléments qui n'ont pas la vie de nos grands chênes, mais un peuplier boit entre 400 et 600 litres d'eau par jour.
Ah ouais.
Et donc parfois quand on abat 30, 40 ou 50 peupliers, les gens se demandent pourquoi l'humidité remonte, pourquoi l'eau revient dans le paysage. Bah, tout simplement parce que les pompes à eau qui étaient présentes sur les paysages ont disparu. Mmh. Donc dans le lien à nos territoires, en fait, le fait de regarder l'ensemble de ces composantes est absolument, non seulement passionnant, mais tout à fait utile à nos démarches de construction, de réhabilitation, d'entretien de nos habitats. Sur la question de l'eau et de l'humidité, nos couvertures de maisons sont faites en ardoise aujourd'hui. Et donc ce ne sont pas des caouets qui sont posés sur des bâtiments, puisque l'étanchéité d'une ardoise, c'est simplement le recouvrement des ardoises qu'il a fait, ce qu'on appelle le pureau. Mmh. Et donc une ardoise est posée sur une autre ardoise qui elle-même est reposée sur une autre ardoise. Lorsqu'on n'entretient pas ces gouttières, parce que on n'a pas la possibilité de le faire ou parce qu'on n'y a pas pensé, mmh, elle se recharge avec des feuilles qui tombent, avec des poussières, avec des gravats, avec des mousses, mmh, et l'eau du coup les remplit. Et en remplissant une gouttière, en fait, l'eau peut passer le pureau.
Ah ouais.
Et l'humidité peut à nouveau entrer dans la maison. Donc il y a un tas de petits détails, en fait, qui sont les détails de la vie quotidienne. Et de la même manière qu'on passe l'aspirateur chez soi, qu'on passe la serpillière, qu'on nettoie son plan de travail lorsqu'on fait la cuisine, le fait de considérer sa maison comme un élément pour lequel il faut passer un peu de temps, en fait, mmh, finalement. Et pourquoi pas, parce que je pense que c'est très utile faire appel au corps et au métier des artisans de nos territoires qui sont des professionnels avec non seulement des savoir-faire, mais avec des connaissances qu'on a tendance à oublier de solliciter. Ça permet, d'une part, de maintenir un tissu économique actif, mmh, et en même temps d'avoir des maisons bien entretenues.
02 33 23 13 23, si vous avez des questions à poser à Emmanuel Fauché. On parle de l'humidité dans la maison, on va continuer d'en parler. L'humidité dans la maison, mais c'est pas gratuit. On parle de l'humidité dans la maison en relation avec notre environnement, avec la relation entre l'habitat et la nature. Et on continue de parler d'humidité dans l'habitat et de la relation qu'on peut avoir entre l'habitat et la nature et l'environnement direct avec la nature qui quelquefois pose des soucis parce qu'on n'a pas su, on a cassé l'équilibre quelquefois qui avait été pensé en amont sur de l'habitat ancien en installant par exemple du goudron dans sa cour ou en installant ou en travaillant sur les murs.
Oui, voilà, on n'a pas forcément cherché à s'adapter, c'est vrai, Emmanuel. On a contré ce qui nous gênait.
C'est ça.
On a cherché des solutions immédiates à des éléments qui finalement fonctionnent sur le long terme.
Alors justement, je voulais parler de l'habitat neuf, en fait, parce qu'on a tendance à penser que l'habitat neuf ne souffre pas d'humidité. Vous me dites que non.
Alors l'habitat neuf aujourd'hui, les constructions dites traditionnelles en béton, aglo, enduit. Avec isolation, laine de verre, placo plâtre, etc. Ce sont des bâtiments qui ne perspirent pas. Et c'est pour ça qu'on les ventile. À la différence des habitats neufs qui sont construits en bois, qui sont construits en réutilisant des techniques anciennes qui, eux, maintiennent leur élément de perspiration. Mmh. Donc les bâtiments contemporains, on les ventile, on installe des ventilations mécaniques, alors qu'ils peuvent être des ventilations mécanique double flux ou des simples flux hygro et qui permettent de gérer cette humidité finalement. C'est-à-dire que ce sont des ventilations qui se referment ou s'ouvrent en fonction de la quantité d'humidité qu'il y a dans la maison. Mais on voit bien qu'on a ajouté un élément technologique pour engendrer et fabriquer ce qui existait par ailleurs quasiment de manière automatique dans du bâti ancien. Puisque autrefois, si on prend un certain nombre de bâtis qu'on peut connaître de bâti ancien, le fait de ventiler régulièrement toute la journée en ouvrant les fenêtres, le fait d'avoir un bâti qui n'a pas été modifié, qui n'a pas été dégradé en installant un enduissement, par exemple. Mais quand je dis ça, je fais aucune critique sur ces actions. Mmh. Elles ont été contemporaines à un moment donné.
Oui.
Et on a essayé d'installer et d'améliorer le confort et la qualité de vie qu'on pouvait avoir. Et donc ces solutions-là étaient apparues. On n'avait pas le recul nécessaire à l'époque pour se rendre compte de ce que ça pouvait apporter.
Aujourd'hui, on le sait. Mais voilà. Le problème, c'est qu'on est dans une dynamique et qu'on a du mal à faire marche arrière.
Exactement.
Enfin, marche arrière, pas forcément marche arrière, mais en tout cas
on a des habitudes, en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais. Trouver d'autres solutions.
On rencontre au CAIE aujourd'hui des jeunes familles qui pour qui goudronner une cour, c'est important parce que ils installent un camping-car ou leur voiture ou leur moto, le vélo des enfants, ça fait une cour de jeu, pourquoi pas. Mais il n'empêche que on avait parlé dans une précédente émission du fait que c'était des chauffages en puissance pour la maison, et c'est aussi des éléments qui dégradent la qualité de vie parce qu'ils engendrent une humidité importante en pied de mur, et donc qui va migrer à l'intérieur de la maison. Et donc le fait de retrouver ce lien à la nature et de se dire où est-ce qu'elle est autour de nous et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle fasse partie finalement de notre quotidien, finalement c'est notre jardin, c'est une pièce à vivre supplémentaire. Et ce jardin-là, on essaie de le domestiquer de la même manière qu'on le fait pour les espaces extérieurs et intérieurs. Donc autant on peut serpiller un carrelage, autant on ne serpille pas une cour. Donc elle peut être gravillonnée, elle peut être, comme on disait tout à l'heure, partiellement enrobée, mais on y installe aussi des éléments dans lesquels l'eau peut circuler. Et ce fait d'accueillir en fait cet élément-là, et ben ça permet aussi d'améliorer la qualité globale des aménagements, ça permet d'améliorer la qualité globale des lieux dans lesquels on vit. On sait que l'humidité, elle est, elle nous rend sensibles. Enfin, on connaît des enfants qui ont des pathologies qui sont liées aux bronches. Enfin, elle peut transporter des moisissures. Quand on a des moisissures, c'est des spores qui se transportent à l'intérieur de l'air que l'on respire. Et donc c'est
tout ça n'est pas
bon pour la santé.
Ouais.
Et tout ça, bah, c'est en lien avec une forme de blocage qu'on a fait d'accueil à la nature. Et la nature autour de nous, bah, c'est de l'eau dans l'air qu'on respire là, dans le studio de France Bleu Cotentin. Il y a beaucoup d'eau qui est présente. On a l'impression qu'il y en a pas, mais il y en a beaucoup qui est présente.
Mmh.
Et si on la laisse pas migrer, si
bouger.
On la laisse pas voyager, bouger, on a des parois froides, et bah, elle va se poser sur les parois, elle va ruisseler. Et si on n'a pas une espèce d'équilibre en fait entre les parois et entre le lieu dans lequel on est, et ben finalement l'eau va chercher à voyager, parce que c'est son usage et c'est sa manière de faire.
Ou alors comme on le disait, on emploie la technologie et on met en place des appareils qui vont gérer l'humidité dans la maison, alors qu'effectivement naturellement on peut faire autrement, et c'est compliqué effectivement de penser autrement les choses.
Et ces appareils-là amènent d'autres difficultés, parce que on a rencontré certains habitants qui ne supportent pas de la ventilation mécanique, et donc qui bouchent les entrées de ventilation mécanique. Et là, du coup, on engendre d'autres pathologies.
9h33 sur France Bleu Cotentin. On parle d'humidité à la maison. On n'a pas parlé, tiens, d'ailleurs, des immeubles. Peut-être on va avoir l'occasion d'en parler, parce qu'on a parlé beaucoup des maisons et de la relation avec un jardin, la nature, l'environnement, et forcément qui est très important. Mais quand on n'a pas prise sur l'environnement direct extérieur, est-ce qu'on peut faire des choses? 02 33 23 13 23. Vous n'hésitez pas à nous appeler, hein, si vous avez des questions à poser à Emmanuel Fauché concernant un problème d'humidité justement dans votre habitat. On parle d'humidité dans la maison, dans l'habitat, de relations directes avec la nature également pour lutter contre cette humidité. On a compris à quel point un habitat, ça respirait. Donc, plus un habitat respire, moins on sent d'humidité s'installer dans la maison. Et plus on empêche cette respiration, plus l'humidité peut être là. Ensuite, la technologie, vous nous l'avez bien expliqué, compense cette non-respiration.
Voilà.
Alors qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, et on va parler aussi après des immeubles parce qu'on a dit qu'on en parlerait, mais qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil si on trouve de l'humidité dans sa maison, si le parquet est un petit peu humide, le carrelage est un peu humide, ou si on voit sur les murs un peu d'humidité, comment on doit réagir, qu'est-ce qu'on doit regarder en premier?
Alors déjà, pour bien intervenir, faut bien connaître. Donc pour bien intervenir sur un bâtiment, faut bien savoir comment est-ce qu'il a été construit, comment est-ce qu'il a été conçu, éventuellement comment est-ce qu'il a été réhabilité. Donc l'idée, ça peut être de rencontrer des professionnels. Il y a beaucoup d'acteurs sur le territoire qui peuvent aider. Je pense, vous recevez le parc, vous recevez d'autres acteurs aujourd'hui. Le CAUE de la Manche en fait partie. Donc on est capable donc on est capable de recevoir les gens et de les accompagner. Mais sinon, les rechercher les causes, en fait, parce que là, quand on constate de l'humidité dans la maison, c'est une conséquence de quelque chose, c'est rechercher les causes. Elles peuvent être basiques, c'est-à-dire une rupture d'un flexible de transport d'eau.
Oui, ça peut arriver.
Ça arrive.
Une fuite d'eau, quoi.
Une fuite d'eau. Et elles peuvent être tout simplement liées à une modification de la qualité de la maison, c'est-à-dire qu'on peut avoir des entrées d'air bouchées. Toutes les menuiseries d'une maison, aujourd'hui, ont des petites entrées d'air qui permettent à la maison d'être ventilée.
Mmh.
Et parfois, ça génère une forme d'inconfort pour les gens. C'est-à-dire qu'ils ont la sensation d'une circulation d'air qui les refroidit et donc qui bouche ces entrées d'air. Si on bouche ces entrées d'air, on modifie en fait la qualité de l'échange qui va se faire avec l'extérieur à travers la ventilation mécanique.
Et c'est vrai que ce qu'on pense dans ces cas-là, c'est on va perdre de la chaleur l'hiver, par exemple.
Exactement. Et ben, sauf qu'on augmente notre consommation d'énergie parce qu'on doit compenser encore plus le mauvais fonctionnement de la maison.
Mmh.
lorsqu'on aère aussi, là les beaux jours vont arriver, donc les chaleurs vont augmenter, et on a souvent tendance dans le bâtiment ancien à se dire il faut qu'on ventile tôt le matin, lorsque la température est la plus fraîche. En fait on a raison de le faire, parce que c'est le moment où la température extérieure et la température intérieure seront les plus proches. Si on ventile à un moment où la température extérieure est plus chaude, en fait on va générer un apport d'humidité à l'intérieur de la maison, qui va condenser parce que la maison est plus fraîche, ou le bâtiment cultuel ou le bâtiment culturel, et qui va fabriquer de l'eau qui va ruisser sur les murs et qui va aller sur le sol. En fait, il faut bien regarder son environnement, s'assurer que sa maison est correctement ventilée. Si c'est une maison moderne, s'assurer que les ventilations des fenêtres sont bien installées, sont bien ouvertes, que le bloc de ventilation mécanique fonctionne bien. Donc c'est assez simple, hein, il suffit de mettre... d'aller dans le WC ou de la salle d'eau, de prendre une petite feuille de PQ, de papier toilette, et de le poser sur la bouche de ventilation, et la feuille va tenir.
D'accord.
Si elle ne tient pas, ça veut dire que le système de ventilation n'est pas opérationnel. Donc c'est une petite vérification extrêmement simple qui coûte une feuille de papier toilette qu'on pose sur les systèmes de ventilation. Donc au moment
qu'on peut récupérer après,
et on peut se moucher dedans si on a un rhume. Et on peut les mettre à tous les endroits où la ventilation aspire. Donc c'est dans les pièces humides, donc WC, salle d'eau, salle de bain ou cuisine. Et donc ça veut dire qu'on a une ventilation en bon fonctionnement. Si ces solutions là ont été vérifiées et qu'il reste encore de l'humidité, il est possible qu'on soit dans un cas où on a une migration de l'eau depuis le sol. Et là, c'est peut-être à l'extérieur qu'il faut commencer à regarder. Est-ce qu'on n'a pas effectivement de l'enrobé trop proche de la maison ou sur la totalité de la maison, et qui fabrique des infiltrations en fait en pied de mur, et qui fait que l'eau remonte. Donc là, c'est la solution qu'on évoquait tout à l'heure. C'est éventuellement scier une partie de l'enrobé pour faire en sorte qu'en pied de mur, on ait de la terre naturelle que l'on plante. On peut installer des fleurs, on peut installer... là, on était au mois de mai, on peut mettre des bulbes de muguet pour que l'année prochaine, on récolte soi-même son propre muguet. Enfin, il y a un tas de petits éléments. Il y a des plantes qui absorbent plus d'eau. Et ce sont des petites solutions finalement très mécaniques, très simples, qui n'engendrent pas forcément de gros coûts d'intervention, mais qui peuvent stabiliser en fait la qualité d'une maison. Et puis... enfin, il y a très certainement, sur des solutions qui sont plus complexes, s'il faut gérer l'étanchéité d'une couverture ou s'il faut gérer la qualité des enduits, c'est faire appel à des professionnels de nos territoires. Les artisans sont des professionnels de bonne qualité et de bons conseils dans nos territoires.
Sur France Bleu Cotentin, on est avec notre invité Emmanuel Fauché du CAUE de la Manche. C'est votre nature, 02 33 23 13 23. On parle de l'humidité dans l'habitat et puis de comment est-ce qu'on se bagarre contre cette humidité en réfléchissant justement à la respiration naturelle d'un habitat et la relation aussi avec la nature de proximité, l'environnement de son habitat. Et Rosane nous appelle de Granville. Bonjour Rosane.
Bonjour.
Bonjour Rosane.
Quelle est votre question ?
Je voudrais savoir si c'est utile de mettre des panneaux de liège sur les murs à l'intérieur de l'habitat.
Pour se bagarrer contre l'humidité, parce que vous avez de l'humidité dans votre maison, Rosane, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Ok.
Alors, vous avez une maison qui est une maison... est-ce que c'est une maison ancienne ? C'est une maison en pierre ? C'est une maison... est-ce que vous pouvez me parler de votre maison, s'il vous plaît ?
C'est une maison qui est en brique.
Ouais.
Et qui est très ancienne.
Ok, parce que le liège c'est un très bon matériau. Alors là pour le coup vous faites un choix qui est intéressant, parce que c'est issu du bois, c'est issu d'un arbre, et c'est un très bon matériau et qui va permettre une perspiration. Mais vous voudriez l'installer en paroi intérieure en plus d'isolation que vous avez déjà posée, ou refaire complètement?
Oui, en paroi intérieure, il n'y a pas d'isolation du tout.
Ok, ça peut être une solution intéressante, d'autant que votre maison en brique, elle a déjà des qualités de perspiration. L'humidité que vous ressentez, vous la ressentez à quel niveau et de quelle manière ?
Les angles surtout de la maison, dans la salle de bain et dans l'arrière-cuisine où il n'y a pas tellement de chauffage.
Est-ce que vous avez de la ventilation aujourd'hui qui a été installée dans cette maison ?
Non,
ou pas du tout ?
Pas du tout.
Pas du tout. Donc et vous l'aérez régulièrement dans la journée, tout au long de l'année ?
Oui, oui. L'hiver un peu moins, évidemment.
Bien sûr, il y a des températures plus fraîches. Oui. Et vos menuiseries ont aussi des systèmes de ventilation qui sont bien ouverts et qui fonctionnent ?
Pas vraiment, non.
Pas vraiment. Parce que l'humidité que vous ressentez, enfin votre maison, ce que je ressens moi de votre maison, c'est qu'avec la base que vous indiquez, donc une maison en brique, s'il n'y a pas trop d'enduit ciment qui a été installé dessus, elle a la capacité déjà à avoir cette perspiration. Ça fait partie des matériaux contemporains qui sont plus intéressant que les maisons qui ont été construites en aglo ou en ciment. Donc le liège me semble être une solution tout à fait intéressante. Mais ce que je vous propose, moi, c'est de nous contacter au CAUE et on va prendre plus de temps pour en parler. Si vous avez des photos, si vous avez des éléments de votre maison, prendre en photo en fait votre salle d'eau au moment où vous avez les ruissellements, parce que je suppose que ça se passe au moment où vous prenez des douches ou des bains de manière principale et puis que ça reste de manière résiduelle. Et puis on regardera ce sujet-là avec vous sur un temps d'une heure ou de deux heures.
Pardon, Rosen ?
C'est au niveau du plafond surtout.
Ah, c'est au niveau du plafond, donc c'est au niveau des combles. Et vous avez un étage ?
Oui.
Et
dans les chambres, il y a aussi de l'humidité dans les angles, pareil.
Dans les angles, toujours au niveau du plafond ?
Oui.
Ok, donc oui, c'est dans la circulation de l'air. Il n'y a pas forcément une bonne circulation d'air dans votre maison. Mais ça, je pense qu'on peut en reparler. On peut en reparler ensemble et puis avec des petites solutions, des petites suggestions, faire en sorte que tout ça puisse se rééquilibrer. Le CAUE de la Manche nous en donne des conseils en fait à l'ensemble des particuliers, des auditeurs de France Bleu du territoire. C'est gratuit, ça ne coûte rien parce que on a la chance d'être une association financée.
Rosen, vous ne quittez pas. Caroline va reprendre votre contact et puis on va vous donner le contact du CAUE également pour que vous puissiez contacter Emmanuel Fauché et le CAUE de la Manche pour régler cette histoire d'humidité dans votre maison en briques à Grandville.
Merci voilà, de nous avoir pas appelé. Mardi, oui.
On est toujours au jardin. Non, je dis pas au jardin, on est dans C'est votre nature sur France Bleu Cotentin. Je suis un peu perturbé parce que là tout à coup on a plein d'appels, on pourra pas répondre à vos questions. Je suis désolé. Il est 9h53 on va se quitter très rapidement. On va prendre Gérard tout de même au téléphone à Valogne. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Gérard.
Pour votre émission.
Merci Gérard.
Moi, je n'ai pas entendu parler, mais je n'ai pas tout entendu. J'ai pas entendu parler de l'hygromètre. Moi, j'ai des hygromètres dans la maison qui me permettent de voir l'humidité de la maison. Et je crois que c'est la première chose à faire avant de décider quoi que ce soit, de vérifier qu'est-ce qu'on a comme humidité dans la maison. Qu'en pensez-vous?
Ah oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est un outil particulièrement pertinent pour savoir justement si vous vous situez dans cette fourchette entre 40 et 65% pour cent d'humidité. Mais c'est vrai que parfois il y a aussi des signes annonciateurs d'humidité qui permettent de se dire que déjà avant l'installation de l'hygromètre, on sait déjà déceler qu'une moisissure est problématique, mais l'hygromètre est tout à fait utile. Oui, vous avez tout à fait raison.
Oui, mais quand il y a des moisissures, il y a déjà un sacré taux d'hygrométrie. Hein. Faut pas attendre ça, faut faire du préventif. On a un peu partout, ça coûte pas cher. Et c'est vraiment la première chose à faire.
C'est vrai, Gérard, c'est vrai.
Donc ça coûte pas cher, on trouve ça facilement les hygromètres dans les magasins de bricolage.
C'est des petits objets qui vous indiquent le taux d'humidité finalement de vos pièces. Hein.
Et donc, comme on disait en début d'émission, faut pas dépasser les 60%.
Enfin, 40, c'est 40. Déjà un peu sec, et 65%, c'est déjà un peu humide. Mais quand on est dans cette fourchette-là, on est à peu près correct.
Donc, entre 40 et 65%. Voilà, c'est ça. Très bien. Eh bien, merci Gérard de votre proposition. Dominique, je suis désolé, à Barneville-Carteret, on pourra pas parler de vos difficultés. On va vous donner le numéro de téléphone du CAUE et vous pourrez appeler directement le CAUE de la Manche. Ben voilà, on va se quitter. Je suis désolé, tous les appels arrivent un peu tardivement, puisque là, c'est l'heure de nous quitter. Merci Emmanuel Fauché, encore une fois, un grand plaisir de vous avoir accueilli.
Merci
ici.
À vous, Emmanuel, c'est un plaisir partagé.
Le CAUE de la Manche, qu'on peut contacter évidemment aux moindres difficultés
tout
sur un
fait.
Permis de construire, par exemple, ou sur des soucis d'humidité comme aujourd'hui. On se dit à très bientôt, vous reviendrez avant l'été, hein,
oui,
je crois.
Oui, tout
c'est
à fait.
Prévu.
Avec plaisir.
10h05 sur France Bleu.